Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline, je vous signale que c'est moi qui orchestre le grand remplacement demain. Vous avez intérêt à bien vous tenir.
J'en étais sûre.
Tenez-vous bien tout le monde. Allez, pour nous c'est parti. Le 18-20, France Inter est ouvert, installez-vous. Et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 29 novembre avec le journal de Marion Lourd. Bonsoir Marion.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'actualité ce soir, c'est d'abord l'appel à l'action des pays du G7.
Action urgente face aux variants de la Covid, Omicron. Les ministres de la Santé des pays riches s'inquiètent et appellent notamment à développer la vaccination. Nous serons dans un instant à Londres où se tenait leur réunion. Face à la Covid, de nouvelles façons de se comporter au travail et à l'école. On fera le point sur les protocoles dans ce journal. Dans ce journal encore, le rendez-vous entre les syndicalistes et le ministre des Outre-mer qui tourne court à la Guadeloupe. Le procès Fillon, réquisition plus légère en appel contre l'ex-premier ministre accusé d'emploi fictif. L'encadrement des loyers mal appliqué à Paris et les skippers de petits bateaux de la Transat Jacques Vabre qui arrivent au compte-gouttes et ils ont faim. On verra pourquoi.
À 18h15, un jour dans le monde et revoilà donc la panique. Le monde riche qui se referme sur lui-même face au variant Omicron. Est-ce qu'on panique pour rien? Est-ce que ce sont nous, les pays riches, qui provoquons ce genre de variants en gardant pour nous les doses, tout cela? Et bien d'autres questions avec le professeur Cyril Cohen qui est en Israël, notre pays miroir. Et puis 19h20, le téléphone sonne et cette conversation donc qui se prolonge avec vos questions et surtout ce nouveau protocole scolaire en place depuis ce matin. Plus de fermeture de classe au premier cas positif. Un peu de différence aussi dans les entreprises. Tout cela avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Conclusion donc des pays du G7 réunis aujourd'hui à Londres.
Le variant Covid-Omicron exige une action urgente suite à l'alerte lancée par l'Afrique du Sud sur cette nouvelle souche potentiellement plus transmissible et à la détection de plusieurs personnes contaminées en Europe. Un premier cas en Espagne confirmé cet après-midi. Les pays du G7 veulent se mobiliser. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Vous suiviez pour France Inter la réunion des pays du G7. Qu'en ressort-il ce soir ?
Avant tout, les pays du G7 doivent permettre aux autres d'accéder plus facilement au vaccin. C'est la principale conclusion de cette réunion. Donner des doses aux nations les moins riches, bien sûr, mais leur fournir aussi une assistance opérationnelle, les aider notamment à lutter contre la désinformation. Il faut maintenant surveiller l'évolution de ce nouveau variant et évaluer l'efficacité des vaccins existants. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, présidait cette réunion aujourd'hui. Il vient de prendre la parole à la Chambre des communes devant les députés.
Nous sommes résolus à travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, avec l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr la communauté internationale au sens large pour faire face à cette menace globale. Notre expérience dans la lutte contre ce virus nous a montré qu'il est préférable d'agir de manière incisive et rapide lorsque nous voyons une menace potentielle.
Les ministres réunis ont également tenu à saluer l'Afrique du Sud pour sa transparence. L'alerte diffusée dès la semaine dernière permet au reste du monde de s'organiser en suspendant notamment tous les voyages vers cette région pour tenter d'enrayer la propagation du variant Omicron. Ce G7 Santé se réunira à nouveau avant la fin de l'année.
Richard Place, correspondant de France Inter à Londres, merci à vous. Ce variant Omicron est-il effectivement plus transmissible? Est-il plus dangereux? Est-il plus résistant au vaccin? On fait le point sur l'état des connaissances dans le journal de 19h sur France Inter. Face à la reprise épidémique, partager les vaccins, c'est l'option choisie notamment par la Chine. Le président chinois promet aujourd'hui 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique, annonce dans le cadre du forum de coopération sino-africaine à Dakar, au Sénégal. En France, le virus progresse. 1632 personnes en réanimation hier soir, soit 15 de plus en une journée. Près de 9000 classes fermées. L'exécutif a relancé la semaine dernière la vaccination avec cette troisième dose bientôt nécessaire pour obtenir le pass sanitaire si l'on est majeur. Autre mesure pour contenir l'épidémie, les protocoles sanitaires, ils changent aujourd'hui dans les entreprises et les écoles. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Service économie de France Inter. Dans les entreprises, d'abord, le gouvernement appelle à plus de prudence.
Oui, mais avec des mesures pour l'essentiel laissées à l'appréciation des entreprises. Un protocole qui se contente de marquer le retour dans les cantines des 2 mètres entre chaque salarié. Un plexiglas installé permettra néanmoins de ne rien changer de ce côté-là dans les restaurants d'entreprise. Un protocole qui souligne que tous les moments de convivialité où le masque ne peut être porté. Elles sont déconseillées. Pas de pot de fin d'année entre collègues ou à défaut en respectant cette règle de 2 mètres entre salariés. Également une ventilation de 5 minutes toutes les heures de travail ou une mesure de niveau de dioxyde de carbone est éventuellement recommandée. Le télétravail est laissé aussi à l'appréciation, à la négociation en entreprise. À ce stade, les données sanitaires n'impliquent pas de contraintes supplémentaires, souligne le gouvernement.
Et pour ce qui est des écoles, Laurent, le changement est plus progressif, mais il s'agit avant tout d'éviter les fermetures de classe.
Oui, pour éviter ces fermetures de classe jusqu'ici de 7 jours incompressibles, les règles changent en maternelle et en primaire. Pour un élève déclaré positif au coup de Covid-19, tous ses camarades de classe devront se faire tester, à charge pour les parents, donc de venir chercher leur enfant, de réaliser eux-mêmes le test dès que possible. Tous les tests, y compris salivaires, sont acceptés. Dans ce nouveau schéma, un test négatif permet donc un retour plus rapide, dès le lendemain, si nécessaire, si possible, dès que le test est réalisé. Un retour où le maître attend les élèves qui reviennent progressivement en classe. Les cas positifs doivent en revanche être restés 10 jours à l'isolement. Pas de changement au collège et au lycée. Des autotests. Autotests seront distribués aux élèves de 6e, encore trop jeunes pour être vaccinés, avec cette promesse de distribuer 2 autotests par semaine. Ils ne sont pas attendus néanmoins avant la semaine prochaine et non obligatoires, précise l'Éducation nationale.
Et les nouveaux protocoles sanitaires qui façonnent notre vie quotidienne, vous en parlez Fabienne avec les auditeurs dans le téléphone sonne à 19h20. Là-bas, c'est le pass sanitaire et le vaccin obligatoire pour les soignants qui attise la violente contestation depuis des jours. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est en Guadeloupe en ce moment. Une série de rencontres à la préfecture de Pointe-à-Pitre pour tenter d'apaiser le climat. Nous rejoignons l'envoyé spécial de France Inter sur place. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Il est 13h, presque 7 minutes chez vous. Le dialogue de Sébastien Lecornu avec les syndicats a tourné court.
En effet, quelques centaines de manifestants sont venus accueillir le ministre des Outre-mer devant la sous-préfecture, protégée par un cordon de gendarmes. Sébastien Lecornu a reçu très brièvement une délégation de 4 syndicalistes qui lui ont remis leur cahier de revendications. Maïté Hubert Mtoumo est la secrétaire générale de l'UGTG, l'Union des travailleurs guadeloupéens.
Le ministre n'est pas venu pour négocier, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire. Le rapport de force qu'on a réussi à mettre en place a fait qu'il est enfin venu en Guadeloupe, mais il n'est pas venu pour négocier. Mais cependant, on lui a rappelé que nous, c'est notre demande, l'ouverture des discussions. Et quand il sera prêt, quand vraiment il voudra négocier, eh bien nous, on est là.
Les leaders syndicaux appellent à poursuivre le mouvement et les blocages. Olympe travaille dans un centre médico-social. Elle est actuellement suspendue car elle refuse de se faire vacciner.
Le ministre, il est venu pour rien parce que déjà, vous avez vu, il va continuer à faire sa loi et nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. On ne nous écoute pas. On veut enlever l'obligation vaccinale plus le pass sanitaire et regarder tous les problèmes sociaux qu'il y a en Guadeloupe et mettre tout ce qui est en place pour qu'on puisse vivre bien, être bien.
Le ministre des Outre-mer a posé une condition au dialogue. Il demande aux forces politiques et aux syndicats guadeloupéens de condamner les violences de ces 2 dernières semaines. Sinon, dit-il, il n'y aura pas de discussion possible.
Yann Gallic en direct de Guadeloupe pour France Inter avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Le ministre rencontrera un peu plus tard les élus locaux et les acteurs économiques. Il s'exprimera ce soir 21h30, heure française, avant de s'envoler pour la Martinique. Le ministre de l'Intérieur, lui, s'adressait aux Britanniques cet après-midi par conférence de presse interposée. Gérald Darmanin réclame un accord sur les migrants entre Union européenne et Grande-Bretagne. Les accords du Touquet ne seront pas remis en cause, dit-il. Autrement dit, la frontière reste en France. Mais le Premier ministre français écrira demain à son homologue Boris Johnson pour lui faire des propositions. Un débat pour le principe, mais sans doute pas d'adoption avant la fin de la présidence Macron. Les députés discutent cet après-midi d'une loi visant à allonger le délai pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Proposition de la majorité, mais le chef de l'État n'y est pas favorable et le calendrier avant la présidentielle semble serré.
La population française va diminuer à partir de 2044.
Projection aujourd'hui de l'Institut National de la Statistique. Si la fécondité, si le solde migratoire reste à leurs niveaux actuels, alors nous devrions atteindre un pic à 69 300 000 habitants en 2044. avant de diminuer à 68 millions en 2070, avec au sein de cette population de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées. Un an de prison ferme et quatre avec sursis requis contre François Fillon, l'ex-premier ministre comparé devant la cour d'appel de Paris, accusé d'avoir fait usage d'emplois fictifs, notamment concernant son épouse Pénélope, rémunérée comme assistante parlementaire pendant 15 ans. Contre Pénélope Fillon, le ministère public réclame 2 ans de prison avec sursis. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Marion.
En direct de la cour d'appel de Paris, les peines réclamées par le parquet sont plus légères qu'en première instance.
Ce dossier, c'est l'histoire d'un emploi à plein temps avec une activité proche du néant, attaque le parquet général. Un dossier tout à fait classique de personnes qui se sont enrichies de manière illicite et qui ont ainsi porté atteinte à l'exemplarité de la République. D'abord, les avocats généraux balayent le mythe d'une affaire qui aurait été montée de toutes pièces pour s'immiscer dans le vote des Français. Non, si Monsieur Fillon avait été élu, on aurait été dans la même problématique que pour messieurs Netanyahou et Berlusconi qui ont régné avec le poids du soupçon. Ici, la justice n'a fait que son devoir, insistent les magistrats. Puis ils en viennent au néant de l'emploi de Madame Fillon. On a retrouvé quelques notes, quelques articles, quelques présences à des concerts et même des soins du corps et des conseils vestimentaires, des activités évanescentes et bien modestes dont la plupart relèvent d'une relation entre époux. Le couple a donc monté cette stratégie de dissimulation, ce système d'enrichissement familial dont Pénélope Fillon était parfaitement informée, conclut le parquet général.
Jean-Philippe Deniaud en direct de la cour d'appel de Paris pour France Inter avec Jérémy Thuil pour la liaison technique. Merci à tous les deux. De la neige et de la pluie, aujourd'hui la vigilance orange aux avalanches est levée dans les Pyrénées. Vigilance crue en revanche pour le Nord Pas-de-Calais et le Nord et le Pas-de-Calais. À bord, une octogénaire est morte, noyée dans sa cave. Selon les gendarmes, elle aurait pu être victime d'un malaise avant de tomber dans l'escalier. On fait un point complet sur la météo à la fin du journal. Un tiers des appartements nouvellement loués à Paris ne respectent pas l'encadrement des loyers. Enseignement du premier baromètre sur le sujet, publié aujourd'hui et élaboré par la Fondation Abbé Pierre et la Ville de Paris. 15 000 annonces immobilières ont été passées au crible sur un an. Résultat donc, un plafond souvent dépassé. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
35% des petites annonces qui sont au-delà des plafonds de loyer autorisés par la loi, ça fait beaucoup. D'autant plus que le montant des dépassements du plafond de loyer n'est pas du tout anecdotique. On parle de 196 euros par mois, c'est plus de 2000 euros par an qui sont pris en fait de manière illégale à des milliers de locataires parisiens. Donc on est sur un vrai enjeu de pouvoir d'achat. Si la loi était appliquée, s'il y avait davantage de contrôle, des milliers de Parisiens vivraient mieux, paieraient des loyers un peu moins délirants qu'aujourd'hui. Les locataires peuvent signer un bail, entrer dans un logement, même si le loyer est excessif, et une fois dans le logement, faire un recours. Concrètement, il faut aller devant la commission de conciliation départementale, c'est un recours amiable, et la commission va donner un avis en disant bah, « Écoutez, monsieur le bailleur, vous devriez baisser votre loyer de 100 ou 200 euros. » Et puis s'il ne le fait pas, là, vous pouvez l'attaquer devant le tribunal d'instance qui va décider si le bailleur est en tort ou pas.
Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre, joint par Claire Chaudière pour Inter. À leur tour, Villeurbanne, Bordeaux et Lyon doivent mettre en place un encadrement de ce type dans les semaines à venir. Reste à voir s'il sera respecté. Pas toujours respecté non plus les horaires des trains en France. Bilan moyen selon l'autorité de la qualité de service dans les transports. La France arrive 11e sur 16 pays analysés. 91% des trains quand même sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard en 2019. Le taux baisse à 78% pour les TGV. C'est une page qui se tourne pour le réseau social Twitter. Son directeur général et cofondateur Jack Dorsey quitte son fauteuil pour la deuxième fois. Le désormais milliardaire va être remplacé par le responsable technique du groupe. Correspondance aux États-Unis pour France Inter, Loïc Loury.
Dans un communiqué, Jack Dorsey explique les raisons de son départ. « J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense, dit-il, que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. La fin d'une époque pour le réseau social, tant le visage de son co-inventeur, barbu et décontracté, lui était rattaché. » De Jack Dorsey, on retiendra le pionnier qui avait cofondé Twitter il y a 15 ans, le tumulte également des années Trump. L'ancien président avait fait de la plateforme son principal canal de communication jusqu'à son son éviction, décision autant applaudie que conspuée. Jack Dorsey, depuis des années, était ainsi sous pression au Capitole, accusé par les républicains de faire taire leurs partisans et par les démocrates de propager de fausses informations. Mais il était aussi critiqué en interne et par des investisseurs pour ne pas avoir lâché les rênes de Square, son entreprise de paiement mobile. I love Twitter, j'aime Twitter, a-t-il posté hier soir sur son compte. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et de deuxième élection pour la première ministre suédoise, la social-démocrate Magdalena Andersson vient d'être à nouveau désignée par le Parlement pour diriger le gouvernement. Épilogue d'une rocambolesque élection, puis démission en l'espace de seulement 7 heures la semaine dernière, à cause d'un désaccord de la coalition majoritaire sur les questions budgétaires.
Lionel Messi va-t-il remporter un 7e ballon d'or ?
C'est la question pour le footballeur du Paris Saint-Germain. Face à lui, l'international français Karim Benzema et le polonais Robert Lewandowski. Coup d'envoi de la soirée de remise du trophée à 20h30 au Théâtre du Châtelet à Paris. Fin de partie provisoire en revanche pour un autre joueur du PSG, Neymar souffre d'une entorse à la cheville. Il devrait être indisponible pour 6 à 8 semaines, selon le club. Les derniers bateaux de la Transat Jacques Vabre commencent eux à arriver à Fort-de-France, à la Martinique. Après les ultimes, les multicoques, les grands monocoques, place aux classes 40, les plus petits modèles. Ils ont remis 3 semaines ou presque, une course beaucoup plus longue que prévu à cause des vents trop faibles. Conséquence, la vie à bord devient difficile, Jérôme Val, les repas notamment.
Les premiers classes 40 auraient dû rallier la Martinique samedi dernier. Beaucoup vont mettre 5-6 jours de plus que prévu. En cause, les conditions météo exceptionnellement lentes pour la saison. Du coup, il faut veiller à ce qu'il reste à manger et à boire à bord. Kiran Le Borgne navigue avec son père.
C'est vrai qu'on commence à être un peu limité, notamment en eau surtout. C'est vrai qu'on espérait un peu récupérer un peu de pluie dans les grains, mais on est plutôt sous un soleil... Pas très chaud, ça nous arrange pas trop.
La chaleur, ennemie des marins sur cette fin de course, sous ces latitudes tropicales, le bateau devient invivable, explique l'un des concurrents, Jean-Pierre Balmès.
Il n'y a pas d'ombre, le soleil tape sur le bateau qui fait cocotte minute et c'est très dur à supporter. Donc hier, je ne supportais plus le soleil sur la peau.
Alors certains parmi les moins rapides peuvent-ils manquer d'eau ou de nourriture par exemple ? Pas de panique, selon le directeur de la course, Francis Le Goff.
On ne meurt pas de faim en 3 jours. Les premiers jours de course, ils ont été très concentrés. On sait qu'ils ne mangent pas beaucoup non plus sur les premiers jours. Donc on sait que sur certains bateaux, c'est un petit peu juste. Il y a de l'eau en plus à bord des bateaux.
Il existe même à bord des bidons d'eau de sécurité qui peuvent être utilisés en cas de besoin.
Les vainqueurs de la Transat en catégorie ultime étaient invités tout à l'heure dans le 13-14 de France Inter. Vous pouvez réécouter l'entretien avec Franck Camas et Charles Caudrelier sur franceinter.fr. Enfin, le sapin de Noël de la ville de Bordeaux avait fait polémique l'an dernier. Le maire écologiste ne voulait plus, je cite, « d'arbres morts pour décorer la ville avant les fêtes ». D'où la solution trouvée pour cette année, le sapin bordelais installé dès le 11 décembre sera tout de verre et d'acier recyclé. Bonus, selon Pierre Urmic, cette œuvre coûtera moins cher annuellement que le sapin classique qui trônait place Pey-Berlan. Comme vous le dites souvent, Fabienne, on n'a jamais été aussi près de Noël.
Je vous remercie pour cet hommage,
cette citation.
Marion Loury. Cette citation, absolument. Vous revenez dans un tout petit instant dans Un jour dans le monde. Marion, vous nous parlerez notamment de l'arrivée des Simpsons à Hong Kong. On verra qu'il leur manque un tout petit quelque chose. Ce soir, nous sommes avec le professeur Cyril Cohen pour parler de ce satané variant. Et puis à 19h20, au téléphone sonne, nouveau protocole, vous l'avez entendu, dans les écoles et dans les entreprises pour éviter des fermetures de classes trop nombreuses, pour laisser aussi les entreprises encore maîtresses d'un télétravail sans pression. Tout cela en même temps que l'arrivée d'Omicron et que la cinquième vague. On a un peu l'impression que c'est contre-intuitif. Et on verra avec vos questions ce que vous en dites au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, froid et gris, souvent gris demain matin.
Oui, on aura besoin des gants et du bonnet. Fabienne, les gelées seront nombreuses, moins 4 à 0 degrés. On trouvera du soleil quand même en Méditerranée avec du vent, des éclaircies sur le massif central et le sud du Rhône-Alpes. Mais ailleurs, beaucoup de nuages, des brouillards en prime, un petit peu de pluie sur les Hauts-de-France et les Ardennes. D'ailleurs, le nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour les crues. Et un peu de neige également demain matin sur la Lorraine et sur l'Alsace.
Plus de soleil pour le sud, en revanche, dans l'après-midi.
Oui, le soleil gagnera du terrain terrain vers le Lyonnais, vers le sud-ouest. En allant vers le nord, ça restera encombré avec quelques pluies qui gagneront la Normandie, le bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté. Il neigera sur les Vosges et sur le Jura vers 400 mètres. Toujours du soleil en Méditerranée. Petite hausse pour les températures sur le nord-ouest. Il fera 8 à 12 degrés de l'océan au nord de la Seine, jusqu'à 14 en Méditerranée. Et puis ailleurs, souvent 2 à 7 degrés, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.